Parlons sport sur RTVFM.
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 Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur RTVFM Sport. Ce soir avec un invité un petit peu spécial pour moi, puisqu'il s'agit de mon président, David Delièvre, le président de l'ASBC Rugby. Salut David.
Bonsoir à tous.
La technique, Théo.
Salut Jean-Yves.
Comme d'hab, toujours fidèle au poste.
Toujours Théo. Là, toujours fidèle, ouais.
Valérie qui nous fait faux bond ce soir, pendant un petit moment. En tout cas, elle va arriver sûrement dans un petit moment. Au programme pour ce soir, eh ben, on aura d'abord la première partie jusqu'à 18h40 à peu près. Un long échange avec David Delièvre, avec qui nous évoquerons tous les sujets du rugby Châteauneuf-Bédaridé, de l'ASBC. On fera aussi avec David un point complet, un petit peu un tour d'horizon sur le rugby vauclusien, provençal, la formation, tout ça, c'est des sujets importants, David, pour toi, et ça l'est aussi pour moi, forcément. Dans la deuxième partie, on aura très sûrement Max Palal, le manager sportif, le directeur sportif de Carpentras 13. On reviendra avec lui sur la superbe victoire de Carpentras du côté de Lyon ce week-end, samedi c'était. Et puis des résultats à l'appel, du basket, du volley, du hand, du rugby à 13, etc., etc., etc. On va commencer avec l'invité du soir. Si Théo, tu as mon jingle.
RTV Sport, l'invité du soir.
Comme je vous le disais, ce soir on a la chance de recevoir un homme très pris, David Delièvre. David, félicitations d'abord, parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de te féliciter à l'antenne pour ta nomination au poste de président de l'ASBC. David, comment ça se passe cette première saison en tant que président du club?
Bah déjà, merci à tous pour les félicitations, mais c'est une équipe qui a été élue, c'est pas seulement un homme. Comment ça se passe? C'est une découverte tous les jours, beaucoup de domaines nouveaux pour moi, parce que entre la vie professionnelle et la vie associative, et notamment quand on est à la fois sur vraiment le domaine amateur et quasiment aux portes du professionnalisme, il y a beaucoup de sujets à appréhender, que ce soit les contraintes financières, administratives, les contraintes logistiques qu'on doit piloter. Bon, c'est débordant, passionnant, très chronophage, mais heureusement, il y a la passion qui anime tout ça, sinon il n'y a pas de carburant.
Justement, tu me tends un petit peu la perche, mais comment on appréhende la gestion d'un club? C'est pas pro, c'est pas amateur. Il y a les deux dans le club. Il y a quelques joueurs qui sont plutôt professionnels, d'autres joueurs qui sont complètement amateurs. Comment on arrive à faire un mix de tout ça au quotidien?
Ah, déjà, je sais pas si on y arrive correctement. En tout cas, on fait le moins mal possible. Ça se pilote comme une entreprise, en fait. Il y a un compte d'exploitation qui doit être visé par un expert comptable, par un commissaire aux comptes. Donc là, on est vraiment dans le domaine comptable de l'entreprise, avec des grosses contraintes qui sont pilotées en plus par la DNACG. Donc on a des pointages à faire tous les trois mois. Donc là, c'est une contrainte même qui n'existe pas dans le monde privé, professionnel. Ensuite, pour répondre à la question concernant le management des joueurs de l'équipe, des deux équipes seniors, et principalement de la première par rapport à la mixité des contrats, on fait le pilotage se fait de façon assez simple. Ils sont tous pilotés de la même manière sur le plan sportif, sauf que ceux qu'on appelle les plus réactifs, donc ceux qui ont un métier comme toi et moi au quotidien et qui le soir viennent faire du rugby, il y a un management qui est un peu plus light sur le plan sportif, puisque le club est moins exigeant avec eux en termes de charges d'entraînement. Et je m'explique. Aujourd'hui, à l'ASBC, nos joueurs ont tous un entraînement collectif le lundi, le mardi et le jeudi. Et ceux qui sont en contrat, donc dits professionnels ou apparentés, ont une charge complémentaire le mardi matin et le jeudi matin, en complément des séances de musculation qu'ils font tous de façon individuelle ou pilotées par notre préparateur physique.
C'est combien de contrats pro, un club comme l'ASBC en fédéral 1?
Très très peu. On en a des contrats dits pro. Déjà, on est un club amateur, donc ce sont des contrats fédéraux et pas des contrats LNR. Donc c'est pas, mais c'est assujetti à des charges et comme un contrat de travail de tout à chacun. Aujourd'hui, ce sont 7 contrats sur un effectif de 35 joueurs. en première.
À ramener à ce qu'on voit dans d'autres clubs qui sont dans la poule, et on va en parler aussi, avec des clubs comme Bourg, Narbonne et Bourgoin, me semble-t-il, qui eux ont beaucoup plus de joueurs sous contrat, et forcément ça, c'est une vraie différence de niveau. Ce club de ce championnat de fédéral 1 là, il est un petit peu à deux vitesses du coup.
Oui, bah forcément. Aujourd'hui ils sont entre 25 et 30 joueurs en contrat, pour ne citer que les quatre clubs que tu viens d'évoquer. Alors effectivement, en face de nos gars, il y a des gens qui s'entraînent 5 jours sur 7 ou 4 jours sur 7 et deux fois par jour, alors que les nôtres, comme j'évoquais tout à l'heure, au pire, ils s'entraînent 3 fois par semaine.
C'est pas un peu frustrant, David, de commencer une saison en tant que président ou même en tant que joueur, en se disant que quoi qu'il arrive, ça va être compliqué d'accrocher les meilleures places? C'est un peu comme si on démarrait une course en se disant que quoi qu'il arrive, on ne terminera pas dans les 6 premiers là pour le coup, parce qu'il y a un vrai écart de niveau entre les 5 premiers, 5-6 premiers et puis le reste, c'est un deuxième championnat finalement.
Il y a un écart de niveau avec les 4 premiers. Il y aura un écart de niveau avec les 4 premiers, 5-6. Je pense qu'aujourd'hui notre classement ne reflète pas la valeur de l'équipe. En toute objectivité, on a perdu au moins 5 points là déjà sur le qui ferait défaut à des concurrents directs. Au Benin, on aurait dû prendre le bonus défensif. On est revenu avec 0 et à Nîmes, on aurait dû gagner. Et là, on n'a pris qu'un bonus défensif. Donc ça fait un vrai écart déjà au niveau du championnat. Surtout que les 4 points de Nîmes, et dans notre besace, c'est pas dans la leur. Au niveau du classement, ça resserre un peu l'équation.
Ouais, d'autant qu'ils sont, eux, ils vont jouer le même championnat que nous finalement.
C'est ça, tout à fait. Donc, au sein de l'SBC, par rapport à la dernière, sportivement, l'équipe a bien évolué déjà. Donc Philippe Damignani, à qui j'en hommage, a fait un gros travail à l'intersaison de recrutement.
Philippe Damignani, c'est, on le rappelle, c'est l'ancien président qui aujourd'hui directeur sportif.
C'est ça, hein, tout à fait. C'est le titre de championnat de France, de Fédéral 2, c'est lui. Enfin, c'est l'équipe, mais c'est lui en tant que président. Donc, il a fait un gros boulot sur le plan sportif pour le recrutement. On a déjà identifié ce qui manquerait au club si la saison prochaine tout nous sourit et qu'on continue pour cette fois-ci aller chercher sérieusement la 6e place qualificative, malgré les écarts financiers que tu évoquais tout à l'heure qui sont là, mais après ils sont 15 contre 15 et un petit coup de bonheur de chance peut quelquefois nous permettre de rêver plus haut.
C'est quoi le rapport, on va pas parler d'argent en termes de chiffres, mais on peut parler de rapport financier. C'est quoi, c'est de 1 à 10 avec certains clubs, de 1 à 7, de 1 à 8?
Oh, je peux parler d'argent, j'ai pas de problème. Le budget de la SBC cette année, si tout va bien, ça sera entre 780 000 et 800 000 euros. Et le plus gros de la poule, il s'appelle Bourg-en-Bresse, c'est 3,5 millions.
Ouais. Plus de 3 fois.
Mais... Salut Valérie.
Bonjour.
Valérie qui est arrivée un petit peu à l'arrache. Bonsoir Valérie.
Bonsoir, mais il y avait un peu de circulation, donc ça m'a un petit peu perturbée, et puis j'ai été à la porte, tout simplement.
Ah, toi aussi alors,
hein. Oui. On était deux aujourd'hui. Non, mais la porte, il y a eu un petit souci avec la porte, donc je suis restée un petit peu en bas.
Ouais, David, du coup, comment il va évoluer ce championnat? Parce qu'on rappelle, il y a une période d'années, il y avait deux championnats de Fédéral 1 différents. Il y avait la poule élite qui englobait ces gros clubs, ceux qui étaient supposés avoir des prétentions de monter en Pro D2 et les autres. Là, maintenant, il n'y a plus qu'une seule poule, enfin, plus qu'un seul championnat avec plusieurs poules. Et du coup, toutes les équipes sont mélangées, ça crée des vrais écarts de niveau sur le terrain, des écarts financiers. Alors, ce championnat, il avait été remis à plat, justement parce que les équipes qui s'étaient engagées à monter souvent ne pouvaient pas le faire parce qu'il s'était un petit peu enflammé. Mais comment ça va évoluer? On a évoqué il y a quelques jours la possibilité d'une troisième division pro, entre oui. guillemets. Il me semble que...
Ce week-end, j'étais à Marcoussis avec tous les présidents, enfin... Un très grand nombre de présidents de Fédéral 1 ont été réunis par la Fédé pour discuter de ce sujet-là, entre autres. Mais c'était le sujet principal, d'ailleurs, auquel le président de la Fédération lui-même a participé. Donc, une chose qui est certaine, c'est que la Fédéral 1, telle qu'on la connaît aujourd'hui, déjà, on va terminer la saison en cours, bien évidemment. Il y aura encore deux saisons sous ce format-là. Ça a été acté samedi. Pourquoi? Parce qu'il y a donc une saison et demie, c'était lorsque la disparition de la Fédéral 1 élite a été actée. Là, les présidents de Fédéral 1 de l'époque et la fédération se sont rencontrés comme on l'a fait samedi et ont décidé à l'unanimité le format qu'on connaît aujourd'hui, et ce pour 4 ans. sous l'égide de Thierry Murie à l'époque. Donc ça, et révérence à la porte, il a dit on va pas remettre à plat aujourd'hui ce qui a été voté il y a un an et demi. Donc on reste sur le format actuel pour 4 saisons en tout. Donc ça c'est déjà très bien, ça nous permet à nous, présidents et dirigeants de clubs, de nous projeter. Deuxièmement, quand on a fait le tour de table des clubs éligibles à la candidature pour monter à la Pro D2, bon, est-ce qu'on a de la chance ou de la malchance ? Nous sommes la poule 2, où il y a 3 candidats potentiels. C'est la poule qui est la plus fournie, sur les 4 poules. Après, il y en a entre 1 et 2 dans les autres poules. Donc, allons au mieux, il serait une grosse dizaine. Pas suffisant pour faire sauter quelque chose. Donc. Après, ce qui a été évoqué, c'est potentiellement élargir la Pro D2. Y intégrer 4 ou 5 clubs supplémentaires. Enfin, le tout, ça serait pour qu'on soit sur un nombre pair. Donc, c'est des débats qui vont être engagés. Il y a un groupe de travail qui va être monté. Mais voilà, il y a 2 saisons et demie devant soi pour voir quel format établir. Sachant que moi, président de petits clubs, comme d'autres présidents d'autres clubs, et j'ai découvert qu'il y avait des clubs plus petits encore que nous. Il y en a qui ont 500 000 euros de budget en Fédéral 1. Waouh. On milite pour garder de belles équipes dans nos poules.
Justement, le fait qu'il y ait ces belles équipes-là, on l'évoquait un petit peu en off tout à l'heure, mais ça permet de, finalement d'amener du monde au stade, de faire des grosses affiches, de voir du jeu un petit peu, de voir des matchs un petit peu plus intenses, de voir des... Puis c'est toujours plus agréable de voir des grosses équipes du style Bourg-en-Bresse l'autre fois ou,
tout à fait, ouais.
Ou Bourgouin.
Narbonne bientôt, le
Narbonne
7 décembre.
Le 7 décembre, absolument, ouais. On en reparlera tout à l'heure.
15h, très bien. Donc, plusieurs paramètres liés au fait d'avoir une belle équipe, de belles équipes dans la poule. D'une part, notre trésorier en est ravi. Donc, si le Montreux-Arieux est heureux, je suis heureux. Parce que ça fait de la recette, ça fait de la buvette, ça fait beaucoup de choses. Pour les gens qui aiment le rugby dans notre territoire, quand on va jouer, effectivement, Bourg-en-Bresse, je me rappelle les dernières, Bourgoin-Jallieu, premier match de Bourgoin-Jallieu chez nous.
Oui.
Notre première saison en Fédéral 1, on a une influence record. Qui a été battu par notre derby contre Château-Renard cette année, mais voilà, c'était effectivement un bloc, comme tu l'as dit. Donc, les gens qui aiment le rugby, y compris nos jeunes, peuvent voir de beaux athlètes, du beau jeu, et quelquefois même d'anciennes gloires, ou des gloires actuelles, qui viennent faire une pige en Fédéral 1 pour se relancer. Donc, tout ça ne peut être que du positif, même s'il y a le seul élément négatif qu'on pourrait retenir, c'est le facteur risque pour les athlètes sur le terrain. Parce qu'effectivement, quand vous avez un Golgoth en face de vous qui s'entraîne 10 fois par semaine et vous vous entraînez 3 fois par semaine, sur le plan athlétique, on n'est pas forcément à égalité.
Ça a été évoqué, ce problème de sécurité, là, lorsque vous avez eu ces débats sur le nouveau championnat potentiellement à mettre en place.
Oui, c'est l'argument récurrent que sortait Bernard Laporte en disant « Messieurs, je vous alerte, moi... Je comprends tout ce que vous dites, le sport, les finances et autres, mais il y a quand même ce facteur risque. Donc on a fait un tour de table de tous les présidents présents pour savoir qui évaluait le risque aujourd'hui par rapport aux affiches qui se sont déjà déroulées durant la saison. Pas un seul président n'a levé la main. Il n'y a qu'une seule personne qui n'était pas présente, qui est la présidente de Serré, qu'on a déjà joué. Lorsqu'elle a croisé la porte à Perpignan récemment, il a dit moi tous les dimanches quand je vois mes petits sur le terrain je tremble, j'ai peur qu'ils aillent tous à l'hôpital. Elle a pas tort. On l'a vu récemment, nous on a eu un carton bleu d'un jeune dont j'ai eu peur à Bourgoin-Jallieu.
Ah bon, ouais. Voilà.
C'est un tout jeune trois quarts, il s'est pris le talon de l'équipe adverse, il a pris pas suffisamment bas, il a rebondi dessus. Voilà. Après, mais ça, on le voit également en Pro D2 ou en Fédéral 1, en Top 14, des joueurs entre eux. Ton geste technique, tu l'appréhendes mal, t'as plus de chances de te blesser que si tu l'appréhendes bien. C'est tout.
Tu parlais, on va revenir un petit peu plus localement. Tu parlais du rugby en général et du rugby des villages presque. Comment ça se passe les rapports entre la SBC, Fer de Lens du rugby provençal, du coup, en ce moment? Ou en tout cas du rugby vauclusien. Et comment se passent les rapports qu'on peut avoir avec les clubs autour, puisque normalement ça devrait être la locomotive qui tire le reste du train, et on s'aperçoit que dans les faits, des gros clubs sont presque plus jalousés qu'enviés.
Alors je sais pas s'il y a de la jalousie ou pas, ce que je sais c'est qu'il y a eu de la défiance et elle est bilatérale. Chez qui sont les torts, j'en sais rien, mais Il faut faire amende honorable et puis tourner la page, c'est l'objectif. En tout cas, c'est dans le projet que je porte, c'est un des sujets que j'aime, c'est vraiment mettre en avant le dialogue avec les clubs autour pour faire rayonner les jeunes de notre territoire dans nos clubs, sous nos couleurs. Quand je dis sous nos couleurs, c'est pas les couleurs de l'ASBC, c'est la couleur du rugby vauclusien. Je m'explique. Aujourd'hui, j'ai la chance, effectivement, d'être le président du Fer de Lens, comme tu le dis, parce que la Fédéralune, c'est le plus haut niveau rugbystique local. Mais je suis malheureux de voir que un peu plus de 30%, je crois 35% des jeunes qui composent le centre de formation de Provence Rugby sont vauclusiens. Pas parce qu'ils vont te jouer en Pro D2.
Provence Rugby, on le rappelle, c'est le club de Aix qui évolue en Pro D2. Hein.
Tout à fait. Et c'est pas parce qu'ils vont te jouer en Pro D2 un jour, je leur souhaite. C'est parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas su mettre les structures à l'échelle du département pour retenir ces petits chez nous. Quand je dis chez nous, dans le Vaucluse.
Dans le Vaucluse.
Il y a des parents que je croise des fois, même des gens du club, hein, qui ont mis notamment deux qui sont partis en cadet cette année chez eux, qui disent on les emmène là-bas parce qu'on faute de mieux. Quand est-ce que chez nous vous arrivez à composer quelque chose ? Si on est intelligent entre les présidents du département, en tout cas certains, le vœu que je peux formuler ce soir, qui a déjà été formulé auprès de certains d'entre eux en tout cas, et on discute, on avance avec certains, avec quelques-uns, soyons intelligents, retrouvons-nous pour que nos jeunes restent sur le Vaucluse et évoluent entre eux. Déjà pour la scolarité, le reste, ça serait plus simple. À terme, aujourd'hui, on a la chance d'avoir, dans un périmètre très proche, des cadets nationaux, des juniors nationaux. Les nôtres sont invaincus, mais quand on regarde de qui sont composés les 48 juniors qu'on a aujourd'hui en licence, il y a les trois quarts qui sont des clubs périphériques.
Périphériques, bien sûr.
Et tant mieux. Et derrière, on a les espoirs en Fédéralune et l'équipe des Fédéralune. Si on était tous intelligents, et au sein de la SBC, on a notre part de responsabilité encore une fois, il devrait y avoir une équipe Krabos dans le département. Le Vaucluse est une terre de rugby. Il y a suffisamment de clubs, quand on voit le passé, qu'il y a rugbystique des clubs. J'en parlais avec des présidents d'autres clubs encore ce week-end. Il y a que le Var et à la limite les Landes qui peuvent rivaliser. On a une richesse historique rugbystique qui est sans comparaison en Provence. Notamment par rapport aux Bouches-du-Rhône. Et c'est chez eux là-bas qu'il y a un club de Pro D2. Ok, on n'est pas sur les mêmes bassins économiques, donc je ne compare pas. Cela dit, retrouvons-nous pour que nos jeunes évoluent tous, peu importe la couleur, le nom du club, mais sous une même bannière qui soit vauclusienne, pour après alimenter d'une part la SBC, parce qu'elle est en Fédéralune, ça nous évitera d'aller chercher des mercenaires ailleurs.
Bien sûr.
Deuxièmement, alimenter et faire monter le niveau des équipes seniors globales du département. Parce que tous ne seront pas éligibles en Fédéralune comme ils ne sont pas éligibles en Pro D2 à Aix-en-Provence, mais par contre ils pourront très bien jouer en régional, en honneur, localement et monter et avoir plusieurs équipes de Fédéral 3 et peut-être Fédéral 2 à l'échelle du territoire, et il y a le potentiel pour, sincèrement.
Au-delà de ça, on voit, tu parlais des Bouches-du-Rhône à l'instant, on voit que du côté de Château-Renard ils arrivent à faire ce lien. Alors même si Château-Renard c'est de la Fédéral 1 comme à la SBC, mais Château-Renard arrive à fédérer un petit peu autour. Alors avec les villages aux alentours, c'est clair que autour de Château-Renard, il n'y a pas trop d'équipes de Fédéral 2 ou de Fédéral 3, même pas du tout. Mais ils ont insufflé ce truc-là depuis quelques années. On le voit dans les écoles de rugby de Château-Renard où il y a beaucoup plus de gamins que dans toutes les autres écoles de.
Oui, mais ils n'ont pas d'école de rugby en propre. C'est via un rassemblement.
Oui.
Qui est intelligent, les terres de Provence. C'est ce qu'on devrait arriver. Est-ce que ça devrait s'appeler terre de Vaucluse, rugby Nord Vaucluse, ou peu importe le nom, j'en sais rien, on n'en est pas là aujourd'hui. Mais c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire. Parce qu'on a tous les mêmes problèmes dans nos différents clubs. Que ce soit à Monteux, Orange ou autre, on a tous une catégorie de jeunes, au moins, qui est en pénurie.
Au-delà de ça, est-ce que c'est pas un problème récurrent, on va dire, ces problèmes d'effectifs, on les voit dans toutes les catégories, tu le dis à l'instant, il n'y a pas un club dans la région qui peut se targuer d'avoir toutes les catégories en nom propre, si je crois les Angles, et encore...
C'est le Gard.
Mais, ouais, mais bien David, un point pour toi, mais au-delà de ça, c'est malgré tout problématique, parce qu'on sait que pour qu'un club se pérennise à moindre coût, ça passe par la formation. Former des gamins, pour les former, il faut les avoir, il faut aller les chercher. C'est un véritable problème au quotidien, ça, pour le président que tu es et l'ensemble des bénévoles de l'école de rugby.
Salé, exactement, Salé. Et tu te rappelles certainement le projet que je vous ai présenté à tous les éducateurs en tout début de saison, fin août. Après, il faut regarder la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Les minots sont tous des zappeurs. Aujourd'hui, ils jouent du rugby, demain du tennis. Quand ils arrivent à un âge, moins de 12, ça commence à friter un petit peu, moins de 14, et après, j'en parle même pas, parce qu'on rentre vraiment dans la phase compétition. Il y a un sujet qui est compliqué à appréhender, c'est donc ces jeunes qui zappent d'une activité à l'autre, et puis également quelquefois les mamans qui sont inquiètes pour leurs petits qui vont faire du rugby, parce que le rugby véhicule une image négative aujourd'hui, alors que quand on regarde en proportion, mais c'est moins médiatisé, les traumatismes, on est tous des skieurs, en tout cas un certain nombre. Quand on regarde les proportions de traumatisme qu'il y a au ski, c'est moins médiatisé qu'au rugby. Et on passe moins de temps sur les planches que sur un terrain de rugby. Il y en a très justement qui exprimait le BMX. Mm-hmm. C'est hyper traumatisant. Même le VTT, hein, j'habite à Uchaud, donc dans les collines d'Uchaud, régulièrement, il y a des gens qui se blessent bien en VTT. Et c'est moins traumatisant.
Merci Hugo. En tout cas, merci d'avoir monté le son dans nos oreilles, Hugo.
C'est moins médiatisé, pardon, que ce qui est fait autour du rugby.
David, je te propose de faire une petite pause musicale et on revient dans 2 minutes et demie.
Merci.
Parlons Sport sur RTV FM.
Allez, ici, on est de retour à Carpentras, dans les studios, toujours avec notre invité du soir, David Lelièvre, le président de la SBC, Valérie, qui nous a rejoint. Un re-bonsoir, Valérie.
Bonsoir à tous.
David, avant la pause musicale, on évoquait les problèmes de trouver des gamins qui jouent au ballon. On évoquait aussi la peur des parents avec une paire d'accidents qui ont été un peu médiatisés la saison dernière. Il y a eu beaucoup de médiatisation autour des blessés et une paire de décès, malheureusement. Oui. Ça peut mettre un peu la pression aux parents. On espérait, nous, rugbyman, que la Coupe du Monde allait apporter quelque chose dans les écoles de rugby. Ça n'a pas fonctionné. Il n'y a pas eu d'effet Coupe du Monde particulier cette année, alors qu'il y en avait eu il y a 4 ans.
Oui.
C'est un vrai problème au quotidien, ça, dans les écoles de rugby et de manière générale pour tous les clubs.
Bon, l'effet Coupe du Monde avant le commencement de la Coupe du Monde, on savait qu'il n'allait pas y avoir grand-chose, même si les résultats ont été malgré tout supérieurs à ce qu'on aurait pu imaginer en tout début de compétition. Notre sport, comme beaucoup de sports collectifs, vit un déficit de saison par saison du nombre d'adhérents. Bon. Ça, c'est général, à nous d'être imaginatifs pour apporter autre chose. Notre sport, en plus, donc, comme j'ai évoqué juste avant la coupure, c'est que voilà, il y a cet effet traumatisant, hyper médiatisé, qui n'est pas totalement justifié selon moi, qui est là et qui peut effectivement freiner certains parents. Quand les petits commencent déjà tout petits, forcément il n'y a pas de contact, et quand ils ont le virus du sport, ils le continuent. C'est pour ça qu'à côté de ça, la Fédé et au sein de notre club, on essaie de mettre en avant c'est ce qu'on appelle les nouvelles pratiques qui permettent d'appréhender ce sport en évitant les chocs, en évitant les contacts même carrément, puisqu'il y a du rugby touché, tout en prenant le plaisir de ce jeu, d'avancer ensemble, de défendre ensemble.
Pour le coup, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt quand même, parce que la Fédé arrive à stabiliser le nombre de licenciés, mais dans les clubs au quotidien, tu le sais bien, je suis un de tes éducateurs, mais au quotidien, nous on rame pour avoir des gamins, alors que la Fédé, les chiffres que présentent les dirigeants fédéraux à chaque fin de saison disent mais tout va bien, on est à peu près stable au niveau des effectifs, on est même en hausse parce que il y a des filles qui viennent au rugby maintenant. Qui sont comptabilisés dans les effectifs. Je crois que les filles, c'est plus 20 ou plus 30 tous les ans, % de nouvelles nanas qui jouent au ballon. Mais nous, au quotidien, on arrive on rame beaucoup pour avoir des gamins dans les écoles de rugby. Comment on pourrait faire pour les faire revenir? Une fois qu'on a réussi à dédramatiser le truc avec les parents, malgré tout, il faut d'abord que les parents viennent pour qu'on puisse dédramatiser avec eux.
Oui. La solution, je l'ai pas, sinon on l'aurait déjà mise en œuvre depuis le mois de septembre. Ce que je pense, c'est que, en tout cas, au sein de la SBC, il y a des clubs dans le département qui ont très bien réussi au niveau de leurs écoles de rugby. Nous force est de constater qu'on a mal travaillé. Les chiffres sont là pour le démontrer, voilà. Alors que, comme tu le disais tout à l'heure, nous sommes la vitrine du rugby dans le département. On n'a pas de problème à partir des cadets. Mais surtout des juniors. Cette année, on a même dû refuser des juniors, ouais. Parce que c'est surtout quand on
38,
a accédé
38 juniors cette année.
Ouais. Quand on a accédé au championnat national en 48.
48.
Ouais. Et 35 plus 5 pour la liste retenue maintenant pour le championnat de France. Donc c'est-à-dire qu'il y en a 8 qui sont sous la touche. Et ça, je le regrette énormément. C'est pour ça que je veux qu'on crée des passerelles avec des clubs du département pour tout le monde et du temps de jeu. On a abordé ce sujet-là avec la Fédé. Ce week-end aussi, pour que les listes ne soient pas closes. Il y a une liste, mais qu'elle puisse être évolutive. De manière à ce qu'un jeune qui sera en double licence au sein de la SBC, si en tout début de saison, il ne fait pas la maille pour jouer avec l'équipe première junior en national, mais s'il évolue dans la saison, il puisse venir faire quelques piges avec nous. Pourquoi ? Parce que c'est la porte d'entrée à la division espoir, et pourquoi pas demain la fédérale une. Donc on l'aide vraiment dans un esprit de formation. Pour revenir sur la question concernant les plus jeunes, où on a dans une catégorie des difficultés que n'ont pas d'autres clubs et vice versa, il y a deux leviers. Le levier, c'est les liens avec le monde éducatif. Il faut créer plus de passerelles avec également le monde éducatif pour peut-être les aider aussi, parce que nous avons un sport par contre qui véhicule un certain nombre de valeurs qui peuvent compléter des carences qui peuvent exister dans le monde familial ou le monde éducatif tout simplement. C'est pour ça qu'il faut que nos éducateurs soient bien formés, qu'ils soient rigoureux et qu'ils ne laissent rien passer. Les règles de vie qui d'ailleurs au niveau du rugby doivent rejaillir également dans toutes les strates du club. Concernant l'autre levier que l'on a également, c'est qu'ils prennent du plaisir. Dans beaucoup de clubs, et c'est pas plus propre qu'à notre département, même quand ils sont en moins de 8 ou en moins de 10, leur coach, on est des compétiteurs avant tout, mais ne raisonne que compétition et vaincre l'adversaire chaque samedi ou chaque mercredi. Mmh. Non, c'est une école de rugby. Donc chacun doit avoir sa chance, tout le monde doit jouer. Et bien évidemment, au fil de la saison, quand les petits jouent, ils s'émancipent. Et tu pourras bien évidemment sortir 5-6 gamins du lot et te dira dans ta tête, c'est mon équipe type. Mais ça n'existera pas avant les moins de 14.
Oui, encore.
Voilà. Donc pourquoi aussi? Parce qu'un petit qu'on va laisser sous la touche en moins de 8, après physiologiquement on n'est pas tous égaux. Un moins de 14, quand il va arriver, un été, tu vas le voir arriver après 2 mois de vacances, il aura pris 20 cm, tu dis, ah, finalement, celui-là sur les touches, ça va être sympathique. Ou il aura gagné en vitesse, ou je ne sais quoi. C'est pour ça qu'on se doit, et c'est le message que je m'efforce de faire passer, je pense que toi, j'ai pas besoin de le faire, t'es bien dans la mouvance. C'est du temps de jeu pour tout le monde, que chacun s'éclate, chacun prenne du plaisir. Le petit, si tous les mercredis, quand il rentre chez ses parents, il tire la gueule, excusez-moi pour l'expression, parce qu'il sait pas amuser, il n'aura pas joué. Exactement. Voir le mercredi d'après.
Oui.
Et ça, on a trop orchestré les écoles de rugby de cette façon-là aussi. Alors que dans d'autres clubs, tout le monde s'amuse. Le handball, ils ont gagné pourquoi ? Ok, l'équipe de France a eu beaucoup de performances. C'est la plus belle fédération, sur le plan sport collectif en termes de championnat du monde et de championnat olympique. Mais dans les écoles de handball que j'ai visitées, et avant de venir au rugby, tout le monde s'amuse, tout le monde joue. Il n'y a pas le sectarisme qu'on commence à voir chez nous, parce que c'est ce problème de rugby de clocher aussi.
Bien sûr.
Quand je suis entraîneur de Bédaride, Châteauneuf-du-Pape, en moins de 10 ans, je veux à tout prix les mettre la pile à Sorgue Orange. Mais on s'en moque de ça. Prends du plaisir avec tes jeunes. Et le reste, on verra après. C'est ça qu'il faut qu'on fasse évoluer comme mentalité chez nous, comme dans les autres clubs. Et là, il faut qu'on travaille tous ensemble. Et je pense que c'est un des points qui explique aussi l'exode que l'on a au niveau de nos écoles de rugby.
Il y a aussi le phénomène des consoles, des machines qui plombent complètement les effectifs des écoles de rugby. On voit bien que, de temps en temps, on voit dans le mercredi après-midi des gamins qui ne viennent pas à l'entraînement, mais qui reviennent la semaine d'après ou 15 jours après, parce qu'ils ont eu 2 week-ends où ils étaient tankés sur la console. Et est-ce que tu n'as pas cette impression que les gamins, aujourd'hui, aiment moins... J'allais dire le rugby que nous à notre époque, et au-delà de ça, même le sport en général.
C'est ce que je disais, une génération de zappeurs, s'ils prennent pas leur pied dans un sport, du jour au lendemain, boum, ils changent de sport. Et on a une compétition, une concurrence complémentaire que tu viens d'évoquer, qui est les jeux vidéo. C'est une évidence.
Mais il n'y a pas que ça, je m'excuse, mais c'est en général, ce sont toutes les disciplines sportives. J'ai récemment lu un article où justement la France est parmi les pays où il y a le moins d'enfants qui font du sport. À part le sport obligatoire à l'école, ils font même pas 1 heure de sport par jour ou par semaine, des fois certains. Hein? Donc c'est une catastrophe. On est parmi les pays les plus mauvais dans le monde.
Tout dans le monde. Ce que je disais au début,
plus de sport.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, tous les sports souffrent, sur le plan statistique, de nombre de licenciés. Mmh. Et nous, plus particulièrement, avec différents éléments qui expliquent ceci, dont l'aspect traumatisant du sport proprement dit. Mais oui, on a une réelle concurrence.
Après, on s'aperçoit aussi qu'il y a peu de traumatisme, finalement, par rapport, enfin, tu le disais, mais moi, je le constate au sein de mon groupe, il y a peu ou quasiment pas de bobos sur une saison. Je crois que la saison dernière, j'ai pas eu un seul blessé pendant un tournoi ou un match. Et quand on arrive à parler aux parents, on arrive à leur faire passer ce message et à leur dire, regarde, tu vois, ton gamin se fait pas mal, mais c'est vraiment compliqué d'arriver à faire venir les gamins. Et alors que, bizarrement, quand tu vas dans les collèges, par exemple, les AS sont pleines de les AS, associations sportives, sont pleines de jeunes rugbymen qui se régalent à jouer au collège et pas dans les clubs.
Oui. c'est là où on, bon, je sors de notre territoire Bédarrides et Châteauneuf-Loire. D'autres clubs ont, avec les collèges et même quelquefois avec les lycées, des relations qui sont saines, qui sont bonnes, où les petits, enfin les petits, ils sont plus très petits à cet âge-là, continuent à pratiquer le rugby au sein même, uniquement même de façon exclusive au sein de l'établissement scolaire. Et il y en a quelques-uns de temps en temps qui franchissent le portail pour aller au portail d'en face, aller dans, sur le stade. Mais ce sujet-là, si j'hallucine, je vais vous faire un, je ouvre une parenthèse. Mon fils est en quatrième. L'année dernière, en cinquième, quand j'entendais les sports qu'il faisait en discipline sportive régie par l'éducation nationale, je me disais, mais il fait pas du sport. Il faisait du yoga. Enfin, des sujets qui... Enfin, moi, tout ce que j'ai pratiqué, ok, j'ai un discours de vieux con, mais c'était basket, rugby, hand. Volleyball, handball.
Bon, ça dépend les régions, hein, parce que moi c'était de l'athlétisme.
Oui, on, aussi. On avait, non, mais voilà,
les
oui.
agrès obligatoires.
Exactement. La poutre voilà. Qui est par parallèle. Voilà, combien de fois je me suis cassé la figure là-dessus.
Tous David.
On avait la natation aussi. On avait la natation.
Donc, mais là, aujourd'hui, donc ces sports de base, enfin la notion collective, le sport co, l'année dernière, elle n'en a fait aucun.
Alors que normalement,
l'année.
Effectivement, il y a minimum basket hand.
C'est ça. Et d'ailleurs, et ça participe à la cohésion. Et s'il y a bien un sport qui pousse. Enfin,
mais est-ce que ça vient sport, du prof ou de l'éducation nationale? Parce que je pense pas que
ça vient un peu de tout, probablement aussi de la peur qu'ont les profs maintenant d'avoir un accident et de pas prendre le risque.
Et le nombre d'exemptions sportives, c'est effarant dans l'éducation nationale. Les parents, le nombre d'exemptions sportives, c'est très effarant. Là aussi, on en revient toujours aux gamins qui préfèrent effectivement jouer à sa Nintendo, enfin ça, ouais, que de faire du sport, quoi.
Avant de te libérer, David, juste un petit mot. Oui, ça passe vite. Je sais que tu étais un peu pris par le temps. Juste un petit mot. Est-ce que les problèmes que rencontre notre équipe de France, c'est pas aussi un souci pour les clubs de rugby en général? Alors peut-être moins pour un club de Fédéral 1 en junior, espoir et senior jusque là, mais est-ce que nous à notre époque on rêvait tous d'être Rive, d'être Papa Rambord ou que sais-je encore? On connaissait des joueurs de rugby de très haut niveau, il y avait un vrai exemple, on avait envie de le ressembler. Le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais connu autant de joueurs de rugby. Mais avec, on n'a jamais eu aussi peu de stars, de mecs qui te. Le dernier, c'était Chabal. Il y a quelques gamins qui se sont pris pour Chabal. Et, mais depuis, les équipes de France ne tirent pas les gamins vers le rugby.
Bon, Chabal, il y a eu un effet médiatique surtout.
Oui,
hein,
oui. Donc, avec sa chevelure ça et fait son partie.
Mais ça compte.
Il est arrivé, oui, mais ça compte. Et demain, les stars qu'on aura en 2023, je suis convaincu qu'il y en aura. Parce qu'on en a, malgré tout, quand on voit la moyenne d'âge de l'équipe de France 2019. Ça reste prometteur. Bon, après, il faut qu'ils apprennent à se tenir, à pas mettre des coups de coude devant les caméras vidéo, mais ça, c'est autre chose. Après, c'est quand même difficile à expliquer aux jeunes dans les écoles de rugby, il ne faut pas faire ce genre de gestes. D'ailleurs, on a demandé, c'est ce qui s'était dit ce week-end aussi, il aurait été bien qu'il aille faire quelques stages dans les écoles de rugby pour expliquer aux jeunes ce que j'ai fait, c'est pas bien. Voilà. Bref. Donc le phénomène de starisation, on va pas chercher des Neymar pour aller dans un autre club, dans un autre sport, pardon, ou autre chose, mais c'est nécessaire effectivement pour attirer des jeunes. Donc je pense, et la Fédé travaille, ils font un gros travail de marketing en ce moment quand même. Ça y est, on est dans France 2023, hein, on a 4 ans devant nous, mais on est
France 2023 dedans. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la Coupe du Monde de 2023 qui aura lieu dans notre pays.
Chez nous, tout à fait. 2007 était un succès, 2023 je pense le sera davantage, parce qu'il y a un sujet médiatique, les réseaux sociaux n'existaient pas, ou n'avaient pas la barre qu'ils avaient en 2007, ils n'existaient pas même d'ailleurs. Donc ça va, l'engouement est en marche, et il y aura une starisation de quelques joueurs. C'est indéniable, pour des effets marketing, pour aller chercher des sponsors, pour la Fédé et l'équipe de France, et qui contribueront également, je pense, à drainer des jeunes au sein des écoles de rugby. Maintenant, il faut que nos jeunes talents puissent s'exprimer au plus haut niveau. Donc, qu'il y ait peut-être un peu moins de jeunes, un peu moins d'étrangers qui prennent les places clés, comme la charrière notamment, dans les clubs élites du top 14.
Et je voulais justement revenir sur le fameux coup de coude lors du match qu'on a tous vu à la télé. Tu parlais de faire d'aller dans les écoles de rugby justement pour dire de ne pas faire ce geste, enfin de pas avoir ce geste, de geste comme ça. Mais est-ce que ces gens-là, ces joueurs, parce que c'est de plus en plus qu'on voit des petites violences comme ça, parce que bon, moi je suis un peu le rugby aussi à 15, on en voit pas mal de violences comme ça sur les terrains.
Alors, pour ceux qui se demandent ce qui vient de se passer, Valérie s'est à nouveau cassé la figure de sa chaise pour la 42e fois en 2 ans.
Non, je me suis juste abaissée. J'ai les pieds qui... Enfin bref. Donc, est-ce que ces joueurs ne doivent t-il pas aussi avoir, je sais pas, être passé ou être puni quelque part et revenir justement aller faire pénitence, on va dire, dans des clubs ou dans, bah, je sais pas, ou à la... C'est trop facile, quoi, de donner un coup de coude. Ces violences, je trouve qu'on en trouve de plus en plus. Voilà, bah, ça me choque. Pas seulement au rugby, hein, au foot,
au-delà de ça, je suis pas sûr qu'au moment où il met ce coup de coude, il se rend compte de ce qui se passe. Alors,
on est pris dans le jeu.
Ça fait pas de, ça fait
j'ai
pas,
fait du sport collectif, j'en ai fait quand même à la
fait pas de lui, ça fait pas de lui un voyou et
je
et
dis
un
pas
mec
que c'est un voyou, mais justement,
repentir,
non, mais c'est pour pas que ça se reproduise, ce soit trop facile, parce qu'on prend le coup de tête de Zidane, on en parle encore. 10-15 ans après,
et
quoi,
moi,
on en parle encore.
Ce qui me dérange, le coup de tête, c'est qu'à un moment, il s'est même devenu, il s'est même eu une approche positive. On prend la différence entre notre 15 de France et Richie Mako. Une finale de Coupe du Monde qu'on se souvient tous, où notre Morgan Parra est sorti totalement défiguré. Sauf que lui, il savait jouer avec l'arbitre et il savait se positionner par rapport aux caméras. Voilà. Là, il se relève, il envoie le coup de droit comme il faut, le ralenti montre.
Ah oui, on le voit bien.
Si c'est moi, j'ai la tête à part, quoi. Mmh. Donc, qu'il fasse pénitence, il l'a fait.
Oui, parce qu'il s'est excusé au niveau devant les caméras.
Tout à fait. Dans le vestiaire, apparemment, aussi. Il y a un discours qui restait entre eux, ça leur appartient qu'à eux, mais qui n'était pas piqué des verres à l'initiative du coach, mais surtout du joueur. Mais ça leur appartient encore une fois. Donc, il a fait pénitence devant les médias. Il aurait pu aller plus loin au niveau de sa école de rugby, ça aurait été pas mal. Qu'il médiatise également, ça aurait fait du bien à tout le monde. Maintenant, la sanction, malheureusement, elle était collective. Parce qu'on
s'est fait éliminer.
Et quand on voit ensuite la suite de la compétition, on dit sur un malentendu, ça aurait même peut-être pu sourire.
Carrément. David, en tout cas, il l'heure passe. Il est temps de te libérer. Je te remercie pour ce moment que tu nous as accordé. On se voit très vite, nous.
Merci à tous. Et je vous invite tous le 7.
Voilà, juste rappeler, le prochain rendez-vous de la SBC, c'est un rendez-vous très important puisque ça sera au stade des Verdeaux à Bédarrides contre Narbonne, le leader incontesté de la poule. Et ben voilà, venez nombreux, il va y avoir du spectacle. Ça sera une belle journée, David.
C'est un samedi.
C'est un samedi en plus.
Ouais. Et 15h.
Coup d'envoi, ouais.
Voilà, 15h rendez-vous. Au stade des Verdeaux avec l'école de rugby de la SBC qui sera invitée, les parents aussi, un parent.
Voilà, s'il fait un peu froid, il y a de quoi se restaurer et boire un petit café chaud.
Et même si
tout le temps, il y a tout le temps ce qu'il faut à Bédarrides. David, merci, très bientôt. Et une petite pause musicale, et puis on rattaque de suite avec les résultats.
Merci. Ah.
Au côté rebelle, chaque jour, chaque nuit, notre histoire était criminelle. Peux-tu t'enfuir? Et ça fait bam, bam, tu me tournes autour, bam, bam, flamme du regard, bam, bam, tu disparais, bam, bam, toi mon amour, bam, bam, tu me tournes autour, bam, bam, flamme du regard, bam, bam, tu disparais, bam, bam, toi mon amour, bang bang, hey hey, 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 bang bang, tu me tournes autour, bang bang, flamme du regard. Chaque jour, chaque nuit, telle une belle ombre, tu dansais et tu t'enfuis. Et ça fait bang, bang, tu me tournes autour, bang, bang, flamme du regard, bang, bang.
bang, tu disparais. Bang, bang, toi mon amour. Bang, bang, tu me tournes autour. Bang, bang, flamme du regard. Bang, bang, tu disparais. Bang, bang, toi mon amour. Bang, bang, hey, hey. Bang, bang, hey, hey. Bang, bang, hey, hey. Bang, bang, hey, hey.
Parlons sport sur RTVFM.
Allez, on est de retour au studio et j'ai oublié de faire un petit truc avant que David s'en aille et je voulais le faire là. Je le fais jamais, je voulais faire une dédicace à Christine et Fred Vaudeau, les deux des dirigeants du club. Je voulais leur dire surtout, aimons-nous vivants, comprenne qui pourra, mais... voilà, eux, ils auront compris. Tant pis pour toi, Valérie. Et je suis désolé pour l'ensemble de nos auditeurs. Allez, on repasse maintenant aux résultats. Valérie, si tu as des résultats de ce week-end, avant qu'on a notre jingle maintenant, les résultats.
RTV Sport, les résultats du week-end.
On n'arrête pas le progrès, ça nous donne.
Voilà. Il y en a quelques-uns, hein, parce que bon, tu es au courant, avec des intempéries, nombre de matchs, de manifestations sportives donc, a été annulé. Donc je vais commencer justement avec le rugby à 13. En Élite 2, Lyon-Villeurbanne recevait Carpentras, et Carpentras s'est imposé 26 à 18.
On devrait avoir Max Pala dans les minutes qui viennent au téléphone, je lui envoie un message.
Entraigues, Lescure 14 à 32. La Entraigues, malheureusement, s'est inclinée. Salon recevait Toulon 54 à 16. Et Villefranche-Aveyron, donc le leader, recevait Lille-sur-Tête 50 à 10. Au classement général, Villefranche-Aveyron est premier à 17 points. Pia est deuxième avec 16 points, suivi de Carpentras, hein, de 16 points aussi. Et Entraigues est sixième avec 12 points. Bon, il faut dire que Pia, Carpentras et les deux autres qui suivent ont un match de retard. Hein, donc tout est possible encore pour une place deuxième, voire
première. On va rester quelques minutes, Valérie, sur le rugby à 13, puisqu'on a notre ami Max Pala au téléphone. Max ?
Oui, bonsoir.
Salut,
bonsoir.
Max. Max, on voulait t'avoir au téléphone pour que tu nous parles un petit peu de cette superbe victoire à l'extérieur samedi après-midi contre Lyon.
Tout à fait. Bah écoutez, ouais, c'est on va retenir les trois points comme disait Jérôme Alonso. Donc oui, victoire 26-18. Ça n'a pas été simple chez les Lyonnais comme d'habitude.
Ouais, c'est toujours des matchs compliqués pour vous. Hein. On se rappelle que l'an dernier ça avait été un petit peu dur. Vous aviez perdu, me semble-t-il.
On perd en championnat chez eux. Donc c'est toujours accroché. Voilà, avec le terrain stabilisé, sous la pluie, donc glissant. Donc première mi-temps un peu difficile à se mettre en place. Et heureusement, ils font une très bonne 20 premières minutes en seconde mi-temps. On réussit à faire le break.
Max, est-ce que c'est pas la bonne nouvelle du week-end, ça, que ça fait déjà, on était l'autre jour à la Roseraie contre Bao déjà, mais est-ce que c'est pas presque la bonne nouvelle de la saison, parce que l'an dernier il est arrivé que vous jouiez bien et que vous perdiez, et là cette année ben ça se passe toujours bien, même en jouant mal, la victoire choisit toujours le bon camp. Est-ce que c'est pas c'est quelque part c'est un petit peu encourageant, parce que vous perdez pas trop de points en route, à part contre Pia?
Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on ne va pas faire la fine bouche. Jérôme était mécontent du contenu.
Forcément.
Parce que, ben voilà, on est conscient qu'on a un gros potentiel cette saison. Et bon, on est peut-être un peu pressé que ça se mette en place. Mais bon, moi, je suis optimiste. Et je sais que voilà, ça va arriver rapidement. Quoi.
Surtout que là, vous êtes troisième, c'est-à-dire deuxième ex aequo, mais seulement au goal average. Je ne sais pas si on dit ça comme ça aussi au rugby. Oui. Vous êtes à la troisième place. Hein. J'ai vu à 3 petits points d'écart. Donc, ce qui manque à Carpentras, c'est de marquer beaucoup d'essais.
Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai qu'on fait des matchs pas avec des gros scores. Notre problème, peut-être, c'est qu'on se met un peu au niveau de l'équipe que nous avons en face.
Oui, c'est ce qu'on a pu constater justement la dernière fois contre Baou.
Ouais, c'est ça. Mmh. Et alors, comme dit Jean-Louis, ben, Jean-Yves, pardon, ça passe pour le moment, mais attention quand même.
Ouais. Ça peut être fragile, quoi.
Peut-être sera dimanche. Quoi.
Mmh. Oui, parce que dimanche, vous rencontrez Villefranche-Aveyron.
On va à Villefranche-Rouergue, donc ah, c'est le leader.
Mmh, c'est le leader.
Ouais, c'est le. Ouais, c'est toujours compliqué d'aller.
C'est sûr que si on regarde le classement, on est bien placé. Mais bon, c'est que le début, c'est que le sixième match pour nous. Donc voilà, vraiment, je pense que le gros test sera dimanche à Villefranche. Mmh. En espérant que ça passe.
Bon, mais écoute, Max, merci pour ce petit débrief. On était un petit peu tenu par le temps. Je suis désolé, on va te libérer un petit peu plus tôt qu'on l'aurait souhaité. En tout cas, merci. On vous souhaite plein de bonnes choses pour le déplacement de dimanche du côté de Villefranche. Et puis, on se rappellera lundi soir pour débriefer tout ça.
Entendu.
Allez, merci. Allez, Max.
Soirée,
à très bientôt.
Max.
Au revoir.
Au revoir.
Valérie, tu as d'autres résultats ?
Oui, je vais continuer avec le rugby à 15 en Fédéral 3. Il y avait Avignon-le-Pontet qui se déplaçait à Uzès. Et donc Avignon-le-Pontet, c'est donc a gagné le match 30 à 15 avec un bonus offensif en plus. Il rentre à la maison, donc chargé.
Ouais. Et c'est très bien pour Avignon-le-Pontet parce qu'ils avaient enchaîné une paire de mauvais résultats ces derniers temps. Bon, alors... Juste un truc, c'est Uzès, c'est pas non plus
la grosse équipe, ils sont, voilà, je crois, parmi les derniers, Uzès.
C'est absolument pas l'équipe qui fout la trouille à personne. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir pris ces points-là.
Plus le bonus offensif.
Absolument, ça remet un peu les Avignonnais, enfin moi je dis les Pontessiens, mais ça remet un petit peu les Pontessiens d'aplomb au classement. Ce championnat, il va être terrible. Il va être terrible parce qu'il n'y a que des belles équipes et c'est un peu la guerre... Tous les week-ends, on se régale.
Il y a le feu sur le terrain.
Ouais, il y a le feu. Enfin,
le feu façon.
C'est du bon feu, voilà. C'est du bon feu, mais oui, il y a des rencontres engagées. Dans cette poule, il y a 4 équipes qui sont à moins de 20 km les unes des autres. Les Angles, Le Pontet, L'Isle-sur-Sorgue, Cavaillon, Valréas. Donc c'est bien pour tout le monde et tant mieux pour ce championnat et tant mieux pour le rugby.
Donc un futur club vauclusien en Fédéral 2.
Écoute, on l'espère, c'est plus compliqué que ça au rugby pour monter. Les Avignonnais les Avignonnais, les Pontessiens, le club est au Ponté. En tout cas, ils se sont armés pour faire une grosse saison. Il y a 2 entraîneurs extraordinaires. On parlait tout à l'heure de Bédari de Châteauneuf-du-Pape qui a été champion de France. L'entraîneur de cette équipe-là est l'entraîneur du Ponté. L'un des capitaines de cette saison-là, Ludo Zanini, est devenu l'adjoint de Mika Mabilon au Ponté. Bien sûr, ils ont recruté une équipe faite sur mesure avec pas moins de 5 ou 6 joueurs qui avaient été champions de France en Fédéral 2 il y a 2 ans. Donc voilà, c'est monté comme il faut pour jouer les premiers rôles. Voilà.
Il y avait du handball avec le club de Mazan, donc un seul match, puisque tous les autres ont été aussi annulés. C'est les moins de 18 ans qui se sont inclinés face à la Garde sur le score de 31 à 22. Et au classement général, Mazan est 3e, donc... C'est bon, un mauvais match, on va dire.
Ouais, c'est un mauvais match. Juste pour parler de la N2, il y avait, ils ont failli jouer, ça a été annulé au dernier moment. C'est toujours un petit peu compliqué pour une équipe là qui se prépare et au dernier moment, qui peuvent pas jouer. Et voilà, c'est juste. C'est bien pour Mazan. Ça leur a aussi permis de faire un petit peu de jus. Je voudrais signaler. Le 6, non, je crois que c'est le 7 ou le 6 décembre, il faudra vérifier, la nuit du hand-fauteuil à Mazan. Il y avait eu ça l'an dernier pour le Téléthon, je crois que c'est reconduit cette année, je crois que c'est le samedi soir.
Samedi soir pour le Téléthon.
Valérie.
Allez, je continue avec le basket avec l'ABC Carpentras. En U20 régional, Carpentras recevait Cavaillon et là, Carpentras s'est imposé de 2 petits points, 67 à 65. Il y avait les quarts de finale de la Coupe de Vaucluse senior fille. Carpentras recevait Cavaillon et là, Carpentras s'est incliné 50 à 63.
En parlant de basket, je voudrais signaler la disparition de Jean Bellucci, le président emblématique
du
Sorgue Basket Club. Jean Bellucci, c'est le président qui avait pris le club au niveau de la mer et qui en a fait un énorme club, qui avait joué les quarts de finale de la Coupe de France à l'époque contre le Valois-Perret, qui a joué les premiers rôles en National 1 pendant des années. Jean était malade, il est parti pendant le week-end. J'ai une pensée pour sa famille et pour David Bellucci, son neveu, qui était l'ancien président de la SBC Rugby. Voilà, une grande perte pour le sport vauclusien et pour le basket sorgué en particulier.
Mais justement, basket avec Sorgue, en U18 filles régionale, donc Sorgue se déplaçait à Saint-Chamas et Sorgue l'a emporté 41 à 35. Il y avait aussi les U18 filles départementales, donc Sorgue Orange 30 à 52 et en senior masculin, Sorgue donc s'est imposé 110 à 39 face à Morière. Voilà, ça c'est pour le sport, on va dire, du coin. Donc les résultats, très peu en raison des intempéries.
Il y avait effectivement peu de résultats, mais on peut parler de l'athlée. Il y a le week-end du Beaujolais, c'était ce week-end-là. Il y a tous les ans la foulée des vignerons du Castellas à Rochefort-du-Gard. Et c'est Vlaminck qui s'est emporté chez les hommes sur cette course-là et qui a fait un superbe résultat. C'est peu de résultats encore une fois parce que ben voilà les conditions météo. C'est peut-être mon coup de gueule, j'avais dit que j'en passerai pas ce soir, mais si Théo est prêt, en tout cas même sans jingle, je vais passer un coup de gueule. Tu veux
RTV Sport, le coup de gueule ou le coup de cœur.
Voilà, ben ce soir ça sera un coup de gueule, un mini coup de gueule, je l'avais pas préparé mais tant pis, je vais le passer. J'en ai marre, moi, de ces gens qui annulent des rencontres sportives dès qu'ils tombent deux gouttes d'eau. J'en ai marre de ces mairies qui prennent des arrêtés pour pas qu'on abîme leur terrain. J'en ai marre de... Voilà, on parlait tout à l'heure...
Ce week-end, c'est quand même des intempéries, alors, suivant les régions.
Suivant les régions, c'était vraiment d'énormes intempéries.
Tout ce qui était Var, tout ça, c'était quand
on
même...
On parle là du Var et même de l'Ardèche.
Voilà, et encore, ça a été... Ardèche, samedi dans l'après-midi, c'était comme nous.
Ça a été compliqué et je respecte parfaitement ces trucs-là. Mais par exemple, il y a... la ligue de foot avait pris dès jeudi soir
des arrêtés
pour dire qu'il n'y aurait pas de rencontre parce qu'il risquait de pleuvoir. Quand on voit ce qu'il a tombé, on pouvait largement s'entraîner. Il y a des terrains qui ont été fermés. À un moment, trop de précautions tuent les précautions. Et quand on parlait de la désaffection des sports collectifs aussi, je pense que ce genre de conneries participe aussi à la désaffection des sports collectifs chez nos gamins et chez les parents. Voilà, c'est juste mon petit coup de gueule. J'en avais envie. Voilà, je le pensais. C'est on peut plus rien faire maintenant à force d'observer les principes de précaution et quand c'est beaucoup trop. Le rugby, les Entraigois ont dû se battre pour pouvoir jouer leur match dimanche après-midi. Au rugby, la plupart des rencontres ont été annulées. Moi, je me souviens qu'il y a 15 ou 20 ans, on jouait sous la pluie, dans la boue, et ça n'a jamais dérangé personne. Maintenant, les joueurs d'aujourd'hui...
On jouait sous la pluie, même,
oui,
effectivement.
Mais les joueurs, les gamins d'aujourd'hui, Valérie, un gamin qui a 25 ans aujourd'hui, il ne sait pas ce que c'est le plaisir de jouer...
De s'écraser dans la boue.
Ouais. Et moi qui entraîne les moins de 12 au rugby à la SBC, il n'y a pas un de mes gamins, de mes joueurs, qui connaît le plaisir de rentrer chez lui avec de la boue plein la figure. Et je trouve ça désolant. Voilà, c'était... j'ai fait deux minutes avec ça et j'en avais envie.
Non mais c'est vrai, je reconnais que moi j'ai fait des sports aussi collectifs extérieurs et on jouait souvent dans la boue puisque en région parisienne il ne faisait que pleuvoir à une époque.
Ouais, il y avait
donc on jouait sous la boue.
Bien sûr, et ça fait
sous la pluie et dans la boue.
Ça fait l'objet d'un petit article dans le journal aujourd'hui. Je vous invite à le regarder dans le Dauphiné. Il nous reste à vous remercier pour votre fidélité. Rendez-vous lundi prochain, probablement avec le basket de Sorgue, s'ils veulent bien nous confirmer, ces braves gens. Sinon, on changera au dernier moment de projet.
Voilà. Mais moi aussi, j'attends la réponse du basket de Carpentras.
Eh bien, écoute, on va les relancer pour savoir s'ils ont envie de venir nous parler. Sinon, on trouvera quelqu'un d'autre. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bonne semaine à vous.